RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bienvenue les curieuses, bienvenue les curieux. Merci d'avoir choisi RTL en ce lundi de Pâques. Salut Sidonie.
Salut Thomas, salut à tous. Alors Thomas, vous avez goulûment mangé du chocolat aujourd'hui.
C'est pas très sympa de dénoncer, oui, mais c'est délicatement que j'ai dégusté une excellente cloche qui n'était pas blonde.
Quoi ? Mais vous parlez de moi ? Vous êtes désagréable.
Moi, qui aime bien, châtie bien. Allez, c'est quoi le programme de la curiosité ?
Et ben, on va parler de vous, Thomas, justement.
De moi ?
Ben oui, parce qu'on va parler des gourmands célèbres.
C'est pas faux.
Des goinfres, des gastronomes de tout poil. Il y aura au menu de la viande de cheval et des mamelles de truie.
Je sais pas si je dois saliver,
grande bouffe,
mais bon.
Quoi.
En tout cas, on restera dans le domaine de la gastronomie aussi, en partant sur la trace des trois ors blancs, la farine, le sel et le sucre. Ils ont révolutionné le contenu de nos assiettes et fait de la France un leader mondial de l'agroalimentaire.
Mais tout de suite, l'histoire de la fête et des œufs de Pâques.
Le jour de Pâques est arrivé dans la lumière.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est une fête religieuse, c'est la résurrection du Christ, non ?
C'est le summum de l'année liturgique pour les catholiques, c'est la grande fête de Pâques.
RTL.
La fête des fêtes, puisque le Christ est ressuscité des morts.
Et le printemps s'est réveillé sur notre terre.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et dans nos cœurs.
Pourquoi fêtons-nous Pâques ? Pourquoi cachons-nous des œufs en chocolat dans nos jardins ? Il n'y a pas que de la gourmandise là-dessous. Bonsoir Christine Pellistrandi.
Bonsoir.
Bonsoir.
On est content de vous retrouver au micro de la curiosité. Vous êtes historienne et théologienne et vous coordonnez un livre passionnant, Les fêtes religieuses, c'est aux éditions Erol. Alors d'où vient la tradition des œufs de Pâques ? Pour commencer par les gourmandises.
Eh bien, commençons par les gourmandises. Il ne faut pas oublier que Pâques, c'est l'aboutissement du carême. Et qui dit carême, dit jeûne, dit pénitence. Dit à 16.
Donc, sagesse alimentaire.
Une période assez austère. Alors, il se trouve que pendant ce temps-là, si vous voulez, les moines en particulier, qui avaient des grandes propriétés foncières et qui en particulier avaient de grands étangs et ensuite avaient des poulaillers énormes, les poules, elles continuent à pondre.
Donc, ah, et ils ne mangeaient pas les œufs ?
Ben non, ils ne mangeaient pas les œufs. Et alors, on se retrouvait tout d'un coup au moment de Pâques avec des tonnes d'œufs. D'accord. Quand on ne savait que faire.
Mais alors, donc si on décide de les manger ou de les décorer, de les offrir ?
D'abord de les décorer et de les offrir, cette tradition. Et puis surtout, on avait vu toute une symbolique, puisque la fête de Pâques, c'est la mort et la résurrection du Christ. Donc l'image de la vie, c'est vrai que c'est assez extraordinaire, parce que quand on pense que dans un œuf, il y a un petit poussin et que le petit poussin va briser la coquille, c'est vraiment un très joli symbole de vie.
Alors pourquoi les œufs sont apportés par les cloches de Pâques ? On m'a raconté ça toute mon enfance, j'imaginais.
Et Sidonie y croyait encore il y a quelques semaines. Hein, j'ai dû lui expliquer que ce n'était pas vrai.
Non.
J'étais très triste.
Moi, je vais lui dire qu'elle a tout à fait raison et que c'est très bien. Vous savez, il y a quelques générations dont j'ai été témoin. Je ne dirais pas que c'est autant des dinosaures, mais presque, comme me disent mes enfants.
N'exagérez pas, Christine.
Il se trouve que cette période était une période vraiment très austère, la preuve. C'est que dans les églises, on recouvrait pendant toute la période du carême les statues de grands voiles mauves. Vous savez, le deuil à cette époque-là, ouais. C'était avec beaucoup de cérémonial. Bon, et il se trouve que d'autre part, la France, il y a disons 70 ans, était un grand pays rural. Et par conséquent, dans les villages, qu'est-ce qui rythmait le temps ? C'était les cloches, avec les cloches de l'Angélus le matin, à midi et le soir.
Et c'est pour ça que ces cloches...
Alors, justement, ces cloches, qu'est-ce qui se passe ?
On voit la fin de l'histoire.
Le jeudi saint, au moment du Gloria, au moment où c'est effectivement Jésus célèbre la dernière Pâque avec ses disciples, eh bien, à ce moment-là, toutes les cloches des églises sonnent parce qu'on veut honorer ce moment. Et puis ensuite, on entre dans le grand silence parce qu'il va y avoir le Vendredi Saint, il y aura le Samedi Saint et on est dans le silence. Et ça, je crois qu'on n'arrive plus du tout dans le monde dans lequel on est à se rendre compte de ce que peut être le silence. Vous vous rendez compte, vous êtes dans un village, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cloches.
Juste pour finir sur les cloches...
Les cloches, elles sont parties à Rome.
Eh bien oui, c'est ce que j'allais dire.
Mais oui.
elles partent à Rome et elles reviennent de Rome avec du chocolat.
Voilà, et elles reviennent de Rome avec du chocolat. Et je trouve que cette histoire, elle est très belle.
Elle est magnifique.
Alors, si vous voulez, vous avez le côté la liturgie, où on vous explique que, effectivement, les cloches font sonner de manière superbe dans la nuit du samedi saint. Mais je trouve que pour des enfants, c'est absolument merveilleux, parce que moi, je continue beaucoup à enseigner cette tradition, parce qu'évidemment, le matin de Pâques, les cloches ont déposé dans le jardin, ont déposé des œufs qu'il faut aller chercher.
Christine Pellistrandi, vous avez coordonné, participé à ce livre « Les fêtes religieuses » publié chez Erol, qui parle du christianisme, mais aussi de l'hindouisme, du taoïsme, du bouddhisme, de l'islam et du judaïsme. Justement, on parle de Pâques, il y a des Pâques. Il n'y a pas que la Pâque chrétienne, évidemment.
Absolument. Qu'est-ce que le moment de la Pâque chrétienne ? C'est le moment où Jésus célèbre, lui, la Pâque juive. Si vous voulez, Jésus, on en fait un superman. On imagine qu'il a vécu 3 ans, pas plus, et on ignore qu'il a vécu 30 ans auparavant, et que pendant ces 30 ans, il a célébré les fêtes juives. Et par conséquent, dans sa famille, c'était une habitude de faire, effectivement, de célébrer ce rite de la Pâque juive à laquelle, effectivement, il a participé.
Et on va prendre le temps tout à l'heure de raconter la Pâque chrétienne. Bien sûr, mais quel est le nom de la Pâque juive ?
C'est le passage. Ouais. C'est le passage. Et effectivement, qu'est-ce qui va se passer dans cette nuit-là ? C'est le moment où les Hébreux qui sont en esclavage en Égypte et qui sont des pauvres types, malheureux, sans armes, face à l'armée de Pharaon, qui est l'armée la plus extraordinaire, la plus puissante, parce qu'on nous décrit, on nous donne le nombre des chars de Pharaon tout puissant, eh bien, ils vont réussir avec l'intervention de Dieu qui va dire à Moïse, avec ton bâton, mets ton bâton et les eaux de la mer Rouge vont se séparer en deux et les Hébreux vont passer à pied sec et vont gagner leur liberté.
Après l'histoire, la pratique. Comment fête-t-on Pâques chez les Juifs ? Pourquoi, au milieu de la table, trône un plateau avec du pain azyme, un os d'agneau et des herbes amères trempées dans de l'eau salée ?
Vous avez bien raison d'être curieux, car c'est pour cela qu'il existe ce plateau, pour vous faire parler à toutes les curieux.
Comme vous, ils sont curieux. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 22h sur RTL. Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Sur RTL, comme on est aussi curieux que gourmand, on se demande ce soir pourquoi on fête Pâques et comment notre invitée Christine Pellistrandi est historienne. Vous publiez Les fêtes religieuses aux éditions Erol, livre collectif, on citera tous les autres auteurs tout à l'heure. On l'a dit, la fête de Pâques, c'est d'abord une fête juive historiquement, c'est la fête du passage, de Pessah, et ça se caractérise par un rituel qui s'est forgé en fait autour d'interdictions. Expliquez-nous ça.
Pas tant autour d'interdictions que de souvenirs. Si vous voulez, ce plateau que vous avez évoqué, avec les pains azymes...
Qu'on trouve donc sur la table du dîner, c'est ça ?
Sur la table du dîner, effectivement. Le pain azyme, c'est de la farine et de l'eau, du pain qui n'a pas eu le temps de fermenter, pour montrer qu'on est parti très très vite. On est parti presque en se disant « Attention, parce que les armées de Pharaon vont nous poursuivre. » Donc, on part vite. Ensuite, il y avait dans l'Exode, au chapitre 12, de prendre la prescription de prendre un agneau par famille et de le manger. Et par conséquent, l'os qui reste, c'est, je dirais, le souvenir gustatif. Mmh. On voit l'os et on se souvient de ce que cette agneau pascal représentait. Et c'est très important, si vous voulez, d'avoir toujours une mémoire vivante. Et puis, la troisième chose...
Les herbes amères. Trempées dans de l'eau salée.
Mais oui, parce que l'amertume de l'esclavage, l'esclavage, c'était pas un temps heureux. Et par conséquent, il y a l'image des herbes amères.
Christine Pellistrandi disait que ce plateau, il attise la curiosité. Il est fait pour attiser la curiosité. Pourquoi ? C'est quoi son rôle ?
C'est effectivement, c'est le grand moment où la famille est réunie, avec toutes les générations. Et il faut, c'est le moment de la catéchèse pour les enfants. Il faut leur expliquer, parce que même les familles qui ne seront pas pratiquantes suivent ce rite-là, parce que c'est un rite vraiment profondément ancré dans leur histoire, dans l'histoire de leur peuple. Et par conséquent, ça représente quelque chose d'énorme. Et il faut pouvoir dire aux enfants, souvenez-vous, voilà notre histoire.
Bien compris. Donc, ce que vous venez de nous raconter, c'est ce que l'on fait le soir de Pâques,
oui,
avec les enfants, génération après génération.
Oui,
on raconte l'histoire de ce peuple. Alors, on a parlé de la nourriture. Que boivent les convives?
Alors, ils boivent le soir de Pâques, de Pessah, du vin mêlé d'eau,
oui,
du vin coupé. Alors, vous allez me dire, ah, mais
c'est dommage.
Quand même pas... Oui, voilà, vous avez le bon réflexe.
Il y a un sens à tout ça.
Il y a un sens à tout ça, parce qu'ils vont entrer dans la terre promise, mais avant d'entrer dans la terre promise, ils vont errer pendant 40 ans dans le désert. Et dans le désert, ce sera une épreuve, un temps d'épreuve, avec la grande question et les révoltes constantes contre Moïse. Pourquoi est-ce que tu nous as emmenés là? Dieu est-il oui ou non au milieu de nous? Alors Moïse se retourne vers Dieu et dit à Dieu, c'est quand même toi qui as pris la responsabilité de faire sortir ce peuple et de l'amener là où il est. Alors maintenant, à toi de jouer. Et alors Dieu répond et dit à Moïse, prends ton bâton et frappe le rocher. Et du rocher coule une source miraculeuse. Et l'image de cette source va continuer ensuite à être reprise, y compris dans le christianisme, dont on dira que le Christ est le rocher d'où est sorti justement de l'eau de son côté, quand son côté a été lacéré par la lance du centurion.
Ouais.
Et ces verres, ces coupes de vin, il y en a quatre, c'est ça? C'est
oui,
pour avec, rappeler les quatre décennies d'errance, c'est
voilà,
ça?
Voilà, et à chaque fois, il y a un souvenir, et c'est très intéressant, parce que nous retrouvons cela exactement dans l'évangile. Jésus prend la coupe et Jésus célèbre ce souvenir de la Pâque avec ses disciples. Et c'est le moment que nous retrouvons, nous, dans la liturgie catholique, à la messe.
On ne le boit pas n'importe comment, ce vin, le soir de Pâques pour les Juifs?
Moi, je suis accoudé. Est-ce que ça a un sens de boire son verre en position accoudée?
Ah ben, écoutez, par exemple, dans l'Évangile, je vais vous dire ce que je connais. Très souvent, on nous dit, alors, la Bible traduit, ils se mettent à table. Mais ce n'est pas du tout ça. Ils s'allongent. On a souvent le texte, Jésus s'allonge parce qu'à cette époque-là, on mangeait allongé. Et pour manger allongé, effectivement, vous aviez votre coude sur la table.
C'est un signe d'homme libre aussi de manger allongé, de boire allongé.
Et oui, bien sûr. Tandis que l'esclave n'a pas le droit à cet honneur.
Quelques semaines avant Pessah, Christine Pellistrandi, les familles juives procèdent à un grand ménage de printemps.
Ah oui.
Quelle est cette symbolique?
Ah bah écoutez, moi je les envie, parce que si je pouvais faire la même chose à la maison. Et alors, effectivement, pour montrer qu'il va y avoir une transformation, un changement, donc on ne laisse rien, si vous voulez, de la poussière antérieure, mais c'est un très très beau symbole, parce que si on transpose dans la liturgie chrétienne, ben ça veut dire que peut-être qu'il faut aussi nettoyer notre âme.
On se lave de ses péchés, peut-être.
On se lave de ses péchés, voilà. Mmh. Et vous voyez cette idée, justement, d'une vie nouvelle qui va surgir au moment de Pâques.
On a bien compris, grâce à vous, d'où venait la tradition, les traditions de la Pâque juive, de Pessah. On va voir maintenant comment les chrétiens ont adapté cette fête juive à leur pratique et à leur croyance. A tout de suite, les curieux.
Comme vous, ils sont curieux. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 22h. Sur RTL, vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
La légende raconte que les cloches se taisent. Elles se taisent à Vendredi Saint, elles se taisent de tristesse, de la mort de Jésus, et qu'elles vont à Rome et qu'elles en reviennent à Pâques.
Jusqu'à 22h.
Elles vont se refaire une santé, se ressourcer à Rome, et que de là, elles reviennent pour pouvoir sonner encore une nouvelle année.
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vos enfants, vos petits-enfants sont en train de galoper dans le jardin à la recherche des œufs en chocolat. Bon, il est un peu tard quand
les,
même.
Les miens sont un peu grands,
oui,
surtout.
Oui, c'est ça. Hein. Puis en fin de 23, journée, c'est un peu tard. Faut
23
les avoir
et 20. Oui, ça, et les petits-enfants, j'en ai pas encore. Donc, mais
en
bon.
Tout cas, c'est le soir.
Mais j'ai tellement de souvenirs de ça.
Moi aussi, c'était que de bons génial. Souvenirs. Ouais. On ramassait nos petits-enfants, les mettait dans nos petits paniers. C'était un délice. En tout cas, on vous raconte ce soir l'origine de cette fête de Pâques avec l'historienne et théologienne Christine Pellistrandi. Pâques, c'est la fête la plus importante de la religion chrétienne.
Ah oui, absolument, parce que ce qui était extraordinaire, c'est que c'est la première. Il ne faut pas oublier que les premiers chrétiens sont les disciples qui ont suivi Jésus, donc ce sont des juifs. Et par conséquent, leurs prières sont les prières de la synagogue, et ce sont les prières, justement, les premières réunions, les premières célébrations, eh bien, c'est de refaire ce repas. Ce repas pascal, Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc, tout de suite, les apôtres vont refaire cela. Et c'est effectivement le noyau de la foi chrétienne et de la liturgie chrétienne.
Pâques, ça veut dire quoi ?
Bah, justement, ce passage.
On est toujours dans la même étymologie.
Passage, parce qu'effectivement, le Christ va passer de la mort à la vie. Et c'est ça, le mystère de Pâques. C'est l'affirmation, justement, de la résurrection du Christ.
Alors, la Pâque juive et la Pâque chrétienne ne sont pas à la même date, si je ne me trompe.
Ah oui, alors là, les histoires de calendrier sont des histoires de lune.
On va s'y perdre.
Les histoires de lune et les histoires... Alors, cette année, c'est par rapport à l'équinoxe et à la lune, à la pleine lune. Et alors, par exemple, cette année, Pâques tombe très, très tôt. Et d'autres fois, ça tombe un mois plus tard. Enfin, oui. Donc, c'est fixé sur les cycles de la lune, enfin.
D'accord, on va continuer de vous embêter avec les calendriers, mais en remontant beaucoup plus loin dans le temps, elle est célébrée depuis quand, la Pâque chrétienne ?
Elle a été célébrée tout de suite, mais sans s'occuper, si vous voulez, des questions de date.
Oui.
Et
c'est-à-dire,
ensuite,
tout de suite après la mort de Jésus,
oui,
ça commence à être une célébration.
Les premières réunions entre chrétiens, oui. C'est de faire ce que Jésus a dit de faire, faites ceci en mémoire de moi. Donc, on va faire cela. Et puis, petit à petit, au 1er siècle et au 2e siècle, on va mettre cela un petit peu en ordre. Et on va, ce qui est très intéressant, c'est que dès le 2e siècle, on a pratiquement le noyau dur de certaines prières de la messe. Alors, et on a des manuscrits extraordinaires où on voit effectivement des manuscrits du 7e siècle, où on voit déjà toutes les prières du canon magnifiquement écrites.
Pâques, Christine Pellistrandi célèbre la dernière scène, la passion
oui.
et la résurrection du Christ.
Oui.
Elles sont racontées dans les 4 évangiles. Tout commence par la venue de Jésus à Jérusalem. Vous avez commencé à nous le raconter tout à l'heure.
Ah oui, alors justement, on va célébrer l'entrée de Jésus à Jérusalem. Donc c'est une fête. Et alors, tout le monde est avec des grandes palmes et célèbre cette entrée. Mais on entre sur un quiproquo. sur un quiproquo. Et parce que, effectivement, qu'est-ce que les Juifs attendent du Messie ? On dit que Jésus est le Messie, voilà le Messie qu'on attendait depuis des siècles. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on peut attendre du Messie dans un pays qui est un pays occupé ? Et qui est occupé par les Romains, et les Romains que l'on qualifie de porcs, hein, ou que l'on qualifie de chiens. Un pays occupé. Donc la seule chose, si Dieu est vraiment bon, eh bien, et si Dieu envoie son Messie, il va nous libérer forcément des occupants romains. Et ce n'est pas du tout ce qui va se passer, puisque Jésus entre comme un Messie pacifique, monté sur un âne qui est l'animal des esclaves, non pas sur un beau cheval victorieux.
C'est pour ça qu'il sera dénoncé ?
C'est pour ça qu'il va être dénoncé, puni. Et en fait, c'est une petite minorité du clergé sacerdotal du temple de Jérusalem qui va monter la foule pour lui faire réclamer la grâce d'un terroriste qui s'appelle Barabbas.
Ouais. Christine Pellistrandi, vous racontez cette histoire et vous donnez la signification des fêtes religieuses dans un livre qui est publié chez Erol, vous l'avez dit tout à l'heure, mais très rapidement, donc il faut l'expliquer, ce lundi, ce dimanche de Pâques, c'est l'aboutissement du carême. C'est quoi le carême ? Pourquoi il dure 40 jours, le carême ?
Ah bah parce que 40, c'est toute l'histoire de la Bible. Le déluge a duré pendant 40 ans. Ensuite, les Hébreux ont erré dans le désert pendant 40 ans. Ensuite, quand Moïse est monté pour parler en tête à tête avec Dieu au sommet de l'Horeb, c'était pendant 40 jours. Ensuite, il y a eu quand Élie, le prophète Élie, a été tellement découragé parce que Il était persécuté par la reine Jézabel qui voulait sa mort. Il est allé au désert pendant 40 jours. Donc cette image de 40 est très signifiante. Et surtout, donc Jésus, au début de l'évangile, part au désert. Et là, il est tenté par Satan et il va être là pendant 40 jours au désert. Donc cette image de 40, c'est en fait exciter la mémoire de tout ce qui s'est passé auparavant. Et vous voyez, c'est ça ce qui est tout à fait passionnant, c'est de voir une mémoire vivante. Nous, on a l'habitude d'apprendre des faits historiques comme des faits qui sont morts, et là, au contraire, sont des faits qui sont vivants.
Ce chemin vers Pâques n'est pas terminé, restez avec nous, les curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité de découvrir l'histoire, la signification de la fête de Pâques avec Christine Pellistrandi, historienne, théologienne, qui publie les fêtes religieuses aux éditions Erol. Alors, évidemment, on a tous mangé du chocolat depuis 2-3 jours, parfois trop, si je parle pour moi. D'où ça vient? Depuis quand on mange du chocolat en dur, quoi, si j'ose dire?
On casse du chocolat.
On casse du chocolat, voilà, c'est la bonne expression.
Auparavant, si vous voulez, on buvait le chocolat. Vous vous souvenez, dans cette pièce merveilleuse, la trilogie de la villégiature de Goldoni, il y a le pique-assiette qui est insupportable et qui réclame constamment « mon chocolat, son chocolat à boire ».
Donc on offrait des œufs décorés. Alors, et on buvait du chocolat.
Voilà.
D'accord.
Et à partir du 19e siècle, vers 1840, on a eu l'idée de faire des moules à l'intérieur desquels on allait faire couler le chocolat liquide qui va prendre et va durcir. Et donc à partir de ce moment-là, se fait toute cette tradition des œufs en chocolat. Donc des œufs qui dit œufs dit forcément des poules. Et puis ensuite, il y a les histoires des lapins et des lièvres. Mmh. Pourquoi? Alors ça, c'est une tradition qui vient d'Allemagne, les lapins et les lièvres, parce que les lapins et les lièvres sont très abondants au printemps.
Alors, ah oui, d'accord, il y a une coïncidence de temps.
Et puis c'est joli, un lièvre en chocolat.
Je vous rappelle qu'on parle de chocolat, les amis, mais on est en plein carême, hein. On raconte l'histoire
oui,
du carême.
Oui, c'est vrai qu'on était en plein carême
là,
juste avant l'interruption.
Vous savez que la fête de Pâques, c'est quand même l'aboutissement d'un itinéraire qui commence avec le carême qui va durer 40 jours. Ce sont 40 jours absolument symboliques. Il commence, ce carême, par le mercredi des cendres.
Ah, c'est beau, voilà, le mercredi des cendres. Bah, c'est essayer de se souvenir, alors si vous voulez, dans le temps... on disait, quand on recevait les cendres sur le front, tu es poussière, tu vas retourner en poussière. Ça, on a l'impression que c'est la punition d'Adam, tu es poussière, tu es condamné à mourir. Enfin, et mais heureusement que Vatican II, le concile de Vatican II est passé par là et a un petit peu modifié la liturgie en disant qu'au moment où on reçoit les cendres, de se convertir. Le carême, c'est un temps où on va essayer de réfléchir un petit peu, de prendre un peu de temps de prière, un peu de temps pour se prier un peu pour penser aux autres. Une parenthèse, si vous voulez. Une parenthèse, alors que chacun continue sa vie courante, mais essayez de faire un petit effort pour comprendre qu'est-ce que vraiment signifie suivre le Christ. Est-ce que ça a un sens ou est-ce que c'est un rite? Voilà, c'est ça le problème qui se pose. Et si ça a un sens, alors effectivement, on sait très bien tous les bonnes résolutions qu'on doit prendre pendant le carême. Mmh. C'est pas seulement de plus manger de bonbons,
manger léger, oui.
De manger léger, c'est aussi d'être très très gentil avec des gens qu'on n'aime pas beaucoup.
C'est un bon message à faire passer, Christine Pellistrandi. On continue de suivre cet itinéraire du carême. La messe des rameaux, que signifie-t-elle?
Ah, c'était très important parce que même des gens qui n'étaient pas du tout pratiquants et pas du tout croyants, dans tous les villages, allaient pour la messe des rameaux chercher leur rameau béni, qui évoque donc les palmes avec lesquelles Jésus a été accueilli au moment de l'entrée à Jérusalem. Et ils ramenaient leur rameaux bénis, et qu'ensuite ils allaient porter sur des tombes. Et par conséquent, cela avait une grande importance. Et dans l'ouest de la France, dans les cimetières, il y a ce qu'on appelle une croix hosannière. Hosannière de Hosanna au plus haut des cieux. Et c'est une grande croix au milieu du cimetière que l'on décorait justement avec ces rameaux, pour dire toutes ces tombes qui sont là, eh bien, le Christ est mort et ressuscité. Et ceux qui sont là, dont les cendres sont là, eh bien sans doute qu'ils sont au ciel dans la béatitude.
Christine, après cette messe des rameaux, c'est une autre cérémonie, un autre voilà. moment qui s'ouvre, c'est oui. la Semaine Sainte.
Voilà, c'est la Semaine Sainte. Alors en particulier avec le mercredi, en général, il y a la messe chrismale où on bénit les huiles qui vont servir pour les sacrements, le sacrement de baptême, le sacrement de confirmation. Et puis, nous avons surtout le Jeudi Saint où on refait le repas avec Jésus, la dernière scène alors, où on s'est transposé avec justement le calice, le pain, le calice. Et puis, surtout, il y a une chose qui est très belle, c'est qu'on fait ce que Jésus a fait juste avant ce dernier repas. Il a pris un tablier, et ça, c'est écrit en toutes lettres dans l'Évangile, et je trouve que le fait que Jésus mette un tablier, pour moi, la cuisinière, c'est très important, et il va laver les pieds de ses disciples, oui. qui ne comprennent pas en se disant « mais il n'y a pas de raison, bon ». Et surtout, il dit « eh bien, ce que j'ai fait, à vous de le faire entre vous et pour les plus petits ».
Et ça, c'est le sens de la mission, en fait. C'est voilà. ensuite les missionnaires du Christ.
Alors,
c'est
cette année, il y a une grande nouveauté. Oui. Une grande nouveauté. Alors, ça, il faut le signaler. C'est que le pape a autorisé que les. Vous savez, on fait toujours un lavement des pieds pendant cette cérémonie du Jeudi Saint. Le pape a autorisé qu'il y ait, parmi les gens qui sont choisis et qui représentent les apôtres, il y ait des femmes.
Ah, oh, bravo.
Mais oui.
Bravo. Ce pape, décidément, il nous plaît de plus en plus. Il faut, oui, c'est une très bonne idée. Voilà. On ne peut pas parler de Pâques sans évoquer la symbolique de la lumière et donc du cierge, Pascal.
Ah,
c'est
oui,
très
oui.
important.
Oui, c'est très beau parce que, si vous voulez, c'est cette symbolique, mais il faut se rappeler ce que Jésus dit. Jésus dit « Je suis la lumière du monde » et en parlant de nous, en parlant de ses apôtres qui sont autour d'eux, vous êtes la lumière du monde. Et par conséquent, à travers cette image très belle du cierge, nous avons une responsabilité, et une responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Il faut les aider, surtout dans un monde où on ne sait plus très bien où sont les repères. Eh bien, il faut être lumière.
Et ce cierge, il est présent dans toutes les églises.
Il est présent dans toutes les églises. Dans
tous les dimanches de l'année.
Et puis surtout, par exemple, pour des obsèques, on allume le cierge en se souvenant que justement, il est lumière de résurrection.
Voilà, et merci. C'est la lumière de ceux qui sont partis et auxquels on pense aussi
voilà, très
ce
fort.
Soir.
Merci beaucoup Christine Pellistrandi, c'était passionnant comme à chaque fois. À bientôt au micro d'RTL de la curiosité. Je rappelle que vous publiez les fêtes religieuses aux éditions Erol, 50 fiches pour découvrir et comprendre les temps forts de l'hindouisme, du taoïsme, du bouddhisme, du judaïsme, du christianisme. Et de l'islam.
Il faut citer tous les auteurs. Christine Pellistrandi, elle est là. Alexandre Astier, Patrice Fava et Philippe Haddad. Merci encore.
Vous écoutez RTL.